Et voici le journal de la rédaction présenté par Sébastien Berriot. Bonjour Sébastien.
Bonjour Benoît Bouscarel et bonjour à tous. Dans l'actualité, la paralysie totale de l'aéroport de Hong Kong. Hier, les manifestants pro-démocratie ont occupé le hall d'arrivée toute la journée. On sera sur place dans un instant avec Angélique Forger. La crise à Hong Kong qui fait réagir les États-Unis et le Canada. Mais nous verrons que la France, elle, reste très discrète.
Après le décès de Jeffrey Epstein aux États-Unis, le parquet de Paris pourrait lui aussi s'intéresser à l'affaire. Des noms de Français sont cités dans le présumé trafic sexuel de mineurs qui visait l'homme d'affaires américain et ses complices. On verra ça avec Maxime Fayolle.
L'administration Trump veut se débarrasser des immigrés qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers. À partir du mois d'octobre, les migrants qui touchent des prestations sociales ne pourront plus accéder à la nationalité américaine. Correspondance de Grégory Phillips.
La Corée du Sud s'inquiète après les derniers essais de missiles opérés par le régime nord-coréen. Séoul reproche aussi à Donald Trump de vouloir minimiser ses essais militaires de Pyongyang.
Et puis coup de projecteur dans ce journal sur la réforme des moyens de paiement que la France donne à ses demandeurs d'asile. La carte bancaire ne leur permettra plus d'effectuer des retraits. Colère des associations qui viennent en aide aux demandeurs d'asile. Le dossier à suivre de Margot Delpierre. Le ton monte entre la Chine et les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Pékin affirme ce matin voir dans le mouvement de protestation des signes de terrorisme. Hier, les manifestants ont donc occupé le haut lieu symbolique de l'ancienne colonie britannique, l'aéroport international de Hong Kong. Ce matin, l'activité aérienne commence à reprendre peu à peu. Mais pendant 24 heures, aucun avion n'a pu décoller ni atterrir dans le 8e aéroport le plus important au monde. Une journée de blocage total suivie par notre reporter Angélique Forger.
Au milieu des manifestants assis ou allongés au sol, Dayson, 31 ans, pousse un chariot. Il transporte des cartons de bouteilles d'eau qu'il vient d'acheter et les distribue à tous ceux qui en font la demande.
Les gens sont assis ici depuis plusieurs heures et toutes les boutiques ont été fermées. Donc je suis là pour donner de l'eau à tous ceux qui ont soif.
Au niveau de la porte des arrivées, une télévision a été installée par des manifestants. Elle diffuse en boucle les images de la répression policière du week-end. Là-haut, tatoueuse, a les yeux rivés sur l'écran.
On veut que le monde entier sache ce qu'il se passe à Hong Kong en ce moment. C'est pour cela qu'on montre ces images sur cette télé dans cet aéroport. Je me sens triste et en colère. Pourquoi la police nous a attaqués ? Nous n'avons rien fait de mal. On dit simplement au gouvernement qu'on n'aime pas Hong Kong telle qu'elle est aujourd'hui. On est pacifique, mais le gouvernement ne veut pas nous entendre. Il ne veut pas entendre que nous voulons la liberté pour Hong Kong.
Dans l'ancienne colonie britannique, plus de deux mois après le début de la contestation, la mobilisation ne faiblit pas, malgré les nombreuses menaces de Pékin.
Et des menaces qui continuent. La chef de l'exécutif hongkongais pro-Pékin, Carrie Lam, estime que les manifestations et la violence vont pousser Hong Kong, je cite, vers un chemin sans retour. Une situation qui fait réagir Washington. Les États-Unis, qui sont en conflit commercial avec la Chine, ont exhorté hier les deux parties à s'abstenir de toute violence. Washington appelle également au respect des différentes opinions politiques. Le Canada demande pour sa part à la Chine de tenir compte des revendications des manifestants, des réactions qui tranchent avec le silence du gouvernement français depuis le début de la crise à Hong Kong. Et c'est dans ce contexte qu'une vingtaine de députés LREM ont décidé de se mobiliser sur le sujet en signant une lettre commune en faveur des manifestants. Les parlementaires dénoncent le comportement de la Chine et au passage ils demandent une plus grande implication de la France. Hugo Charpentier.
Pas facile d'oser prendre position face aux géants chinois. Et pourtant, une vingtaine de députés de la majorité ont signé une lettre ouverte pour ne pas, écrivent-ils, rester silencieux devant les événements qui se déroulent en ce moment à Hong Kong, mais aussi pour dénoncer, je cite, un silence assourdissant de la France dans ce dossier. C'est Jean-François Césarini, député du Vaucluse et président du groupe d'amitié France-Taïwan, qui a rédigé ce texte de 3 pages.
Il était important pour nous, effectivement, de parler, parce qu'on trouvait qu'il y avait quand même un silence assez fort dans la classe politique française. Et quand il y a des mouvements qui sont là pour demander la démocratie, je pense qu'en tant que parlementaire français, on se doit de s'exprimer, dire à la fois à nos amis chinois et à la fois aux manifestants de Hong Kong que voilà, il y a sûrement d'autres solutions que la violence, et d'essayer un petit peu de montrer que la voie du dialogue était importante pour la Chine elle-même.
Et parmi les signataires, une absence remarquée, celle de la députée LREM des Français d'Asie, Anne Genetet, qui a réagi sur Facebook. Elle qualifie ce texte de donneur de leçons. Il faut, écrit-elle, être plus subtil avec les Chinois. Une réaction que regrette Jean-François Cesarini.
Bon, on regrette toujours, quand on fait une tribune comme ça, on espère toujours qu'elle soit signée par le plus de monde possible. Bon, je vois qu'elle est un peu embêtée, je la juge pas pour autant, et il faut comprendre qu'elle essaye, elle, peut-être par d'autres moyens, mais j'avais pas trop entendu avant qu'on fasse cette lettre, quoi que ce soit de sa part, peut-être d'autres moyens plus diplomatiques de faire entendre des choses à nos amis chinois.
Il faut dire qu'en prenant position contre la Chine, Anne Genetet risque de perdre son visa et donc de ne plus pouvoir circuler dans le pays. C'est donc discrètement et toujours sur Facebook que la députée réaffirme son soutien aux manifestants de Hong Kong.
Explication signée Hugo Charpentier. Donald Trump ne cesse de minimiser depuis quelques jours sur les tirs de missiles opérés par la Corée du Nord, mais les propos du président américain ne rassurent pas du tout de l'autre côté de la frontière en Corée du Sud. Les analyses effectuées après les deux derniers tirs de missiles ce week-end révèlent l'utilisation d'un nouveau type d'armement, le troisième depuis le début de l'année, des missiles à courte portée qui inquiètent beaucoup à Séoul. Le point sur place avec Frédéric Ojardias.
Le missile nord-coréen mis à feu samedi par la Corée du Nord est d'un type inédit, probablement à carburant solide. Il est rapide à déployer, difficile à détecter et à intercepter. L'engin peut emporter une ogive plus large que celle des missiles KN-23 dévoilés cette année et il pourrait frapper des bases militaires en Corée du Sud, s'alarme un spécialiste du quotidien Chosun Ilbo. La combinaison des nouvelles armes testées avec succès ces derniers mois par Pyongyang est un cauchemar pour les défenses antimissiles, renchérit un autre expert du site NK News. À Séoul, la presse s'inquiète des récents progrès militaires nord-coréens et de l'attitude du président américain Donald Trump qui n'a de cesse de minimiser la menace. Si ces missiles à courte portée ne peuvent en effet pas atteindre le territoire américain, ils peuvent frapper celui de l'allié sud-coréen. Ce qui n'empêche pas Donald Trump d'afficher sur Twitter son amitié avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et de critiquer avec lui les exercices militaires sud-coréano-américains en cours. Donald Trump insiste aussi pour que la Corée du Sud paye davantage pour la présence des 28 000 soldats américains sur son territoire, une attitude surréaliste qui met en péril l'alliance militaire entre Séoul et Washington.
En Argentine, la bourse de Buenos Aires a connu un lundi noir avec une chute de 38% à la clôture qui a entraîné une très forte dépréciation de la monnaie, le peso, face au dollar. C'est la réaction des marchés après la sévère défaite du président libéral argentin Mauricio Macri lors des élections primaires. Scrutin test avant la présidentielle du mois d'octobre. Le vote a été remporté par le candidat de centre-gauche, le péroniste Alberto Fernandez, associé à l'ancienne présidente Cristina Kirchner, qui est inculpée dans plusieurs affaires de corruption. C'est l'une des raisons notamment de l'inquiétude des marchés argentins. Et puis au Venezuela, le bras de fer entre le président Maduro et l'opposition pourrait se durcir dans les prochaines semaines. En effet, l'Assemblée constituante, qui est proche du chef de l'État, a annoncé hier soir son intention de convoquer des élections législatives anticipées pour donc renouveler le Parlement. C'est la seule institution qui est aujourd'hui contrôlée par l'opposition. L'affaire Jeffrey Epstein peut-elle avoir des retombées judiciaires en France? Le décès de l'homme d'affaires ce week-end dans sa cellule de prison aux États-Unis semble relancer le dossier. Des noms de ressortissants français sont cités dans les affaires de trafic sexuel de mineurs qui sont reprochées à Jeffrey Epstein et à ses complices. Hier donc, les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Adrien Taquet ont demandé l'ouverture d'une enquête à Paris. La ministre de la Justice a tenu à rappeler, elle, qu'il n'appartenait pas au gouvernement de décider d'éventuelles poursuites. Mais le sujet est visiblement à l'étude au parquet de Paris, Maxime Fayolle.
Le parquet de Paris n'a pas encore pris de décision sur l'ouverture ou non d'une enquête en France dans l'affaire Epstein, mais plusieurs vérifications sont en cours. Des éléments ont été transmis à la justice qui doit désormais les analyser et les recouper avant de prendre une décision. L'association de protection de l'enfance Innocence en danger a adressé un premier signalement au parquet, c'était il y a 3 semaines, ainsi qu'un second envoyé hier matin. La présidente de l'association indique avoir reçu un témoignage anonyme par courrier le 25 juillet, ainsi qu'un autre signalement d'une femme qui se serait ensuite rétractée. À l'heure actuelle, et selon nos informations, aucune plainte n'a été officiellement déposée. Ce qui interpelle l'association Innocence en danger, ce sont deux noms qui apparaissent dans l'enquête américaine sur Jeffrey Epstein. D'abord, celui du français Jean-Luc Brunel, dirigeant d'une agence de mannequinat aux États-Unis. Ensuite, celui de la franco-britannique Ghislaine Maxwell, fille du mania de la presse Robert Maxwell, et que plus personne n'a revu depuis 4 ans. Outre ces noms, il y a aussi une adresse qui pose question pour Innocence en danger, un appartement du milliardaire situé avenue Foch à Paris et où Jeffrey Epstein se rendait régulièrement depuis plus de 20 ans.
Merci Maxime Fayolle. Et aux États-Unis, on attend toujours les conclusions de l'autopsie qui vont peut-être permettre d'en savoir plus sur les raisons et les conditions du décès de Jeffrey Epstein, donc dans sa prison de Manhattan.
On reste aux États-Unis, Sébastien Berriot. L'administration Trump continue de s'en prendre aux populations immigrées.
Oui, les immigrés, souvent présentés par Donald Trump comme un fardeau pour l'économie du pays. C'est dans ce contexte donc que la Maison-Blanche annonce une nouvelle disposition à partir de l'automne prochain. Les migrants bénéficiant de prestations sociales se verront automatiquement refuser la nationalité américaine ou bien la carte verte, le permis de séjour aux États-Unis. L'objectif étant de garder sur le sol américain uniquement les immigrés financièrement autonomes. Correspondance à Washington de Gregory Phillips.
En dévoilant au printemps son projet de réforme du système d'immigration, Donald Trump avait été très clair. Désormais, nous voulons des immigrés qualifiés, des gens qui arrivent aux États-Unis sur la base du mérite et non pas, par exemple, en bénéficiant du regroupement familial. Cette fois, la Maison-Blanche va encore plus loin. Chaque étranger qui, aux États-Unis, bénéficie d'une prestation sociale, du système de santé Medicaid, d'allocation logement ou même de bons d'alimentation se verra systématiquement refuser la carte verte et, s'il l'a déjà, la nationalité américaine. Le texte a été rédigé par Stephen Miller, jeune conseiller du président parmi les plus conservateurs de son entourage, et est donc dévoilé à 15 mois de la prochaine présidentielle. L'immigration sera sans aucun doute l'un des thèmes centraux de cette élection. Si elles sont appliquées, ces mesures pourront concerner des millions d'immigrés pauvres aux États-Unis, mais les associations de défense des droits de l'homme ont déjà annoncé qu'elles allaient saisir les tribunaux pour bloquer ce projet de l'administration Trump.
La problématique des migrants aussi en mer Méditerranée, le bateau humanitaire de l'organisation SOS Méditerranée a mené hier une nouvelle opération de sauvetage au large des côtes libyennes. 105 migrants supplémentaires ont été pris en charge. Ils sont désormais 356 à bord du bateau. Dans le même temps, 150 autres migrants, eux, sont toujours à bord du navire Open Arms, affrété par une ONG espagnole. Le bateau est en mer depuis 10 jours, sans solution pour débarquer ces migrants. Le capitaine a déposé hier une demande d'asile auprès de l'ambassade d'Espagne à Malte. Le système des cartes bancaires pour les demandeurs d'asile va changer en France et cela ne plaît pas du tout à de nombreuses associations. Une réforme est prévue à l'automne. Les cartes bancaires qui sont distribuées aux demandeurs d'asile pendant la procédure sont aujourd'hui des cartes de retrait. Avec le changement, elles ne pourront plus être utilisées que pour des achats. C'est une directive européenne qui impose cette modification. De nombreuses associations affirment que la réforme va venir sérieusement compliquer la vie des demandeurs d'asile. Reportage de Margot Delpierre.
On dirait une carte bancaire classique. Dessus est versé l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile dont le montant varie. Il commence à 6,80€ par jour pour une personne seule. Et le montant d'ailleurs, l'État n'y touche pas. Seule la fonction change, elle devient uniquement une carte de paiement. Une transformation nécessaire à en croire Didier Lesky, directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
La carte de retrait ne permettait que 5 retraits par mois, donc des sommes qui étaient non négligeables que les personnes devaient garder sur elles. Et quand elles étaient de moins de 10€, les personnes ne pouvaient pas utiliser cet argent qui était sur la carte de retrait.
Le nouveau fonctionnement autorise 25 paiements mensuels et aux associations qui redoutent la disparition du liquide, bien pratique pour des petits paiements à la boulangerie ou à la laverie, Didier Lesky répond.
Il y a toujours la possibilité, et ça se développe de plus en plus, de ce qu'on appelle le cashback, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir de l'argent par le biais d'un commerce qui va vous permettre après un achat de payer beaucoup plus avec la carte et de vous donner l'écart. Tous les commerces qui sont équipés de terminaux de paiement peuvent faire ça.
Une pratique qui n'est pas encore généralisée, déplore Pierre Henry. Selon le directeur général de France Terre d'Asile, l'OFI se trompe de combat.
Nous avons autre chose à faire, autre chose auquel nous atteler. Mettre fin aux campements de rue qui sont indignes, faire en sorte que chaque demandeur d'asile puisse bénéficier d'un hébergement. Je rappelle qu'aujourd'hui, un sur deux seulement ont accès à cet hébergement.
Les associations ne relâchent pas la pression. Hier, l'OFI a annoncé avoir repoussé au 5 novembre la mise en place de la réforme pour permettre aux structures d'hébergement de s'équiper en terminaux de paiement, selon un communiqué.
Margot Delpierre. Le feu vert a été donné pour Salto par l'autorité de la concurrence. Salto, c'est le projet de plateforme commune entre France Télé, M6 et TF1 pour tenter de concurrencer Netflix. Le projet sera lancé en 2020. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 9h. Le temps de ce mardi, du soleil cet après-midi sur la plupart des régions. Seule la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France seront touchés par la pluie. Température cet après-midi, 20 degrés à Paris, 23 à Toulouse et 28 à Marseille.